parler de quelque chose de concret, de pratique. On a parlé de la sainteté du croyant, être saint et que nous sommes saints en Jésus-Christ et que nous devenons saints aussi, que cette sainteté que nous avons, elle se manifeste de plus en plus dans notre vie. Et comment est-ce qu'elle se manifeste de plus en plus? Eh bien, par la parole, par l'Esprit qui agit en nous, à travers la parole que nous recevons par la foi. Et donc, le rôle clé, bien sûr, de la parole de Dieu, de la Bible dans notre vie de chrétien, dans nos vies de croyants, pour que cette foi qui est en nous puisse s'affermir, puisse grandir, pour que nous puissions saisir toutes ces bénédictions que Dieu a pour nous, et en particulier, on va en parler encore cet après-midi, cette transformation au plus profond de notre cœur, cette sainteté de Dieu en nous. Ça, c'est quelque chose de miraculeux que Dieu fait dans nos vies. On parle beaucoup des miracles, des guérisons, des prodiges que Dieu fait lorsqu'il guérit un corps malade, lorsqu'il agit dans une situation impossible. Ces miracles-là, bien sûr, on y croit et on les voit, mais il y a des miracles invisibles. Il y a un miracle dans nos pensées, au plus profond de la trame de nos cœurs, où Dieu vient guérir des blessures et des choses qui sont en nous et qui nous font réagir de telle et telle manière et on ne s'en sort pas. Et le Seigneur vient guérir ces choses-là aussi. Il vient nous changer dans notre caractère même, pour que nous changions d'attitude à l'égard des autres. C'est de ça dont il est question, dans la manifestation de cette sainteté. Vivre cet amour, le manifester aux autres. Et la Bible nous parle de tout cela, nous parle de cet amour par ce commandement que l'on a vu ce matin dans le Lévitique, d'aimer son prochain, et puis ce commandement central de l'Écriture, et qui est traduit aussi dans le Nouveau Testament, « Aimez-vous les uns les autres ». Aimez-vous les uns les autres. Alors, la Bible est une révélation. La Bible est une révélation, c'est la révélation d'un message, un message de Dieu pour les hommes, qui s'énonce donc, ce message, avec des vérités, avec des doctrines, des enseignements. Le problème, c'est comment tirer ces choses, ces doctrines, ces vérités de la parole de Dieu. Ces doctrines dont il est question, vas-y, par exemple, Paul en parle, « Toi donc, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Il est question de saine doctrine. Ça implique qu'il y a des choses qui sont conformes à la saine doctrine et puis il y a des choses qui ne sont pas conformes à la saine doctrine. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est ce que Paul dit aussi à Timothée. Une démangeaison. Est-ce que c'est qu'une démangeaison? Quand ça nous démange, on bouge dans tous les sens. Et une démangeaison d'entendre des... C'est les oreilles qui démangent, en fait. On a envie d'entendre des choses qui nous font du bien. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est qu'avec Internet, c'est bien, hein, on a accès à plein de choses. Plein de choses. Et des choses très bien, hein. Et puis des choses un peu moins bien. Et beaucoup de choses pas très bien, en fait. Mais on pourrait dire, mais de toute façon, allons-y, on peut écouter plein de choses. Bon, que ça parle de Dieu. Si ce que je dis, si ce que je lis, plutôt, ce que j'entends, ce que je regarde, du moment que ça me fait du bien, du moment que ça encourage ma foi, du moment que c'est intéressant, oh, c'est pas grave s'il y a quelques petites choses qui sont pas justes ou exagérées. Mais bon, du moment que ça me fait du bien. Oui, à condition de savoir les discerner. Vous voyez le problème? Je vais oser prendre cette image, tant pis. Imaginez que vous buvez de l'eau du robinet, je pense, la plupart d'entre vous. Moi, ça ne me pose aucun problème de boire de l'eau du robinet. Mais imaginez qu'on vous dise, attention, parce que... alors, je ne sais pas comment fonctionnent les tuyaux, hein, je ne sais pas... Mais il y a l'eau des égouts qui s'est un peu mélangée avec l'eau du robinet. Alors, c'est pas beaucoup, mais c'est une très petite quantité de l'eau des égouts qui s'est déversée dans l'eau potable. Et donc, vous pouvez la boire, hein, elle est potable. Vous faites quoi, vous? Tu la bois pas, non? Moi non plus. Mais voilà, c'est cette idée-là. Ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est des choses conformes à la saine doctrine. Et c'est ça qui doit nous nourrir. C'est de ça dont on a besoin. dans notre foi, pour grandir dans la foi. Et si on a des petites choses qui sont, voilà, des détails, mais qui viennent troubler saine doctrine, ça fait penser à la santé, et on peut tomber malade quand même si on boit l'eau des égouts, non ? Et dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que les églises sont confrontées à des choses difficiles, qui s'écartent de la vérité. Et en fait, une bonne partie des textes du Nouveau Testament, des épîtres, sont liés à des avertissements à des chrétiens qui sont face à des fausses doctrines, ou des déformations, ou des incompréhensions de la bonne doctrine, de la saine doctrine. Donc, l'enseignant, il nous est dit, tiens, tu peux passer, Tite 1.9, doit rester attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée pour pouvoir encourager par l'enseignement sain. Ça veut dire quoi ? C'est l'enseignant, il n'innove pas. Il n'innove pas. Et le prédicateur, il n'innove pas. On ne fait pas des innovations, des nouvelles doctrines, des nouvelles... Non, on prend l'enseignement de la Bible et on la transmet. Avec les mots de notre temps, avec les images de notre temps, mais on transmet cette vérité que l'on a reçue des apôtres dans le Nouveau Testament. C'est la saine doctrine, c'est l'enseignement authentique, ou la juste doctrine, l'enseignement saint, là c'est des différentes traductions de la même expression. Littéralement, on pourrait dire, c'est l'enseignement en bonne santé. Bonne santé, contraire de malade. Et si hier, donc, du temps des apôtres, on voit que l'Église est troublée par des idées nouvelles, des innovations, des révélations qui se répandaient dans l'Église, dans les églises, dans les groupes de chrétiens, dans les églises de l'Empire. Aujourd'hui, c'est pas très différent finalement. Il y a les médias, il y a des livres, il y a Internet. Et parfois, il y a des doctrines pas tout à fait justes, pas équilibrées, imprécises, pas fausses, mais pas justes. Vous voyez, comme l'eau... pas tout à fait potable. On peut dire qu'il y a même des doctrines malades, des choses qui ne sont pas bonnes du tout pour la santé du croyant. Mais il y a des enseignements qui manquent de santé. Ce n'est pas un poison violent, mais si vous mangez tous les jours, à tous les repas, chez un certain restaurant qui fait la restauration rapide, c'est un grand M, vous voyez. Si vous mangez tous les jours chez McDo, vous allez tomber malade, les amis. Hein. C'est ça. Hein. Donc, à un moment donné, il faut manger de la bonne nourriture, quelque chose qui nous fait du bien. Et le résultat, souvent, c'est que le croyant manque de force, manque de santé spirituelle, manque de foi pour s'approprier ce que Dieu veut donner à celui qui s'approche de lui. D'une vie qui plaît à Dieu, d'une vie sainte, saine, sainte. Si la Bible est la révélation de Dieu pour nous, comment, c'est de ça dont on va parler dans un premier temps, c'est comment tirer ces choses, ces doctrines de la parole de Dieu pour les vivre. Et on va voir deux principes fondamentaux. Vous les connaissez déjà, pour la plupart d'entre vous, mais c'est bon de se les rappeler. Et on va parler de... Vas-y. Alors on va faire du... C'est du latin. C'est du latin. On fait même du latin ici, vous voyez. Le sola scriptura. Pourquoi c'est en latin ? Parce qu'en fait, ça date de la Réforme. C'est une grande redécouverte au moment de la Réforme protestante de cette pensée que tout ce qui contribue à la foi et qui régit la vie du chrétien et de l'Église est tiré de la Bible, est tiré de l'Écriture. L'Écriture seule. Écriture seule. C'est l'autorité seule comme norme de foi et de vie. C'est la Bible. Alors si le principe, il est bon, hein, vous êtes d'accord, hein, c'est toujours ça qu'on croit, hein, c'est tiré de la Bible. Tout ce que nous croyons est tiré de la Bible. Mais si le principe paraît bon, il a parfois été mal compris. Et il peut amener des excès. On a vu dans l'histoire certains excès. Lorsque la Bible est mal comprise. Par exemple, quand on prend des versets isolés, on prend quelques versets, un verset par-ci, un verset par-là, et on prend les versets, et puis on les met ensemble, ces versets isolés, et puis on construit un système de pensée, et on interprète tout par rapport à ce système de pensée. Je prends un exemple. Par exemple, la prospérité. Dieu promet, dans différents versets, vous prenez différents textes, surtout dans l'Ancien Testament, où Dieu promet la bénédiction en réponse à la fidélité du peuple. Et vous prenez ces quelques versets dans le cadre souvent donné de l'Ancienne Alliance, et on comprend dans le cadre de l'Ancien Testament, parce qu'effectivement, les promesses qui étaient faites à Israël, c'était une promesse matérielle. C'était des promesses matérielles. Un pays, hein, dans, voilà, c'était une richesse matérielle que Dieu donnait à ce peuple. Et on prend ces promesses-là, on les met toutes ensemble, et on construit, on dit « Dieu veut enrichir le chrétien ». Alléluia ! Non ? Et on en fait un principe absolu. Et on va échafauder tout un système de pensée, tout un tas d'enseignements, à partir duquel on va réinterpréter toute l'Écriture. Vous voyez ? C'est comme ça que ça fonctionne souvent. Une fausse doctrine déséquilibrée. Et on dit que Dieu va enrichir le chrétien. Et c'est automatique. Et il faut que ça arrive. Donc les amis, si vous êtes pauvres, vous êtes des mauvais chrétiens. Parce que la conséquence, c'est ça. Alors, que dit la Bible ? Ben oui, Dieu veut bénir ses enfants. Et on le sait. Dieu veut nous bénir. Dieu est riche en bonté. Mais il n'y a rien d'automatique. On lui fait confiance, on marche par la foi. Et parfois, marcher par la foi, c'est marcher dans des situations où la richesse, elle n'est pas là. On lui fait confiance, vous voyez. Tout est grâce. Et c'est vrai aussi, on pourrait pas dire la même chose par rapport à la guérison. Vous voyez. Non, nous dit l'apôtre, aux interprétations particulières. On va voir ça dans ce texte de Pierre. Le sola scriptura, c'est pas, ou l'écriture seule, c'est pas une carte blanche pour interpréter l'écriture, les textes comme on veut. Prendre des versets sortis de leur contexte et leur faire dire ce que l'on a envie d'entendre, ce qui nous chatouille les oreilles. Et de Pierre nous dit au chapitre 1, vous savez avant tout qu'aucun message de prophète dans l'écriture ne relève d'une interprétation particulière. En effet, aucun message de prophète n'a été apporté par une volonté humaine. C'est porté par l'Esprit Saint que les humains ont parlé de la part de Dieu. Et ici, Pierre rappelle que le Saint-Esprit a un message. Il a inspiré des auteurs bibliques pour qu'ils communiquent une vérité, un enseignement, donc de la doctrine. Donc moi, lecteur du 21e siècle, je dois chercher ce qu'ils ont voulu dire, puisque c'est le Saint-Esprit qui les a inspirés. Vous voyez ? Et ça, cette démarche-là, elle est contraire radicalement à une manière d'interpréter, d'approcher l'Écriture d'une certaine tradition juive dans l'histoire. Puis ça s'est aussi infecté l'Église chrétienne après, où on prend les textes de manière magique. On cherche un sens caché, mystérieux, et on laisse place à toutes sortes de manipulations, parce que tout est allégorie, c'est des images, vous voyez. Et on ne s'intéresse pas beaucoup à ce que l'auteur a voulu dire, mais on s'intéresse beaucoup à ce que nous, on a envie de trouver. Quand on lit l'Écriture, on est obligé de s'intéresser à qui parle. Quand est-ce qu'il parle ? Pourquoi est-ce qu'il dit cela ? De tenir compte de la diversité d'un texte inspiré de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, pour nous parler aujourd'hui, mais qui passe à travers 40 auteurs différents, à travers 14 siècles d'histoire, dans 66 livres. Donc c'est difficile. Et Pierre avertit, il le dit, regardez ce que Pierre dit par rapport déjà aux lettres de Paul. Si tu veux passer. Il s'y trouve, il parle de ce que Paul a écrit, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les gens ignorants et mal affermis tordent le sens, comme ils le font aussi, avec les autres Écritures pour leur propre perdition. Eh oui, c'est un travail, c'est un effort, c'est un besoin, une nécessité pour celui qui enseigne de rester attaché, de rester sur ce sola scriptura, sur ce principe qui donne une place centrale à la révélation de Dieu dans la Bible. Seule source de foi, seule source de vérité, de ce que Dieu a inspiré par son Saint-Esprit, ses auteurs bibliques. Et on y trouve un sens, on nous trouve une direction pour notre vie. Mais ce principe, il ne parle pas de comment, vous voyez, comment aborder les textes bibliques. On le voit qu'il ne nous garantit pas, sola scriptura, tout seul, des mauvaises interprétations. Ça nous amène à un deuxième principe qui marche de pair avec le premier. Si tu veux passer, vas-y, passe. C'est le texte qu'on a lu tout à l'heure. Et le deuxième principe, maintenant vous savez, vous connaissez le latin, il n'y a pas de problème. Tota scriptura. Toute l'écriture. Toute l'écriture. Tout texte biblique doit être compris à la lumière de l'ensemble de la révélation. À commencer par son contexte immédiat. Je ne peux pas prendre un verset comme ça, isolé, et puis me l'approprier comme j'ai envie. Non, 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 non. C'est dans un passage. Ce passage, il est dans un livre. Ce livre, il est dans un ensemble écrit par le même auteur, ce qu'on appelle un corpus. Drôle de mot, mais c'est aussi du latin, en fait. Corpus, le corpus de Paul, c'est tous les écrits de Paul. Et puis, ça prend sa place aussi dans un ensemble qui est le Nouveau Testament, puis avec l'Ancien Testament, dans toute l'écriture. Et c'est dans ce cadre-là que chaque phrase, chaque mot doit être interprété et compris. Et la révélation de l'écriture, c'est aussi la révélation d'une histoire, avec un début, avec un sommet, un point culminant, la croix de Jésus-Christ, et une fin. Et si tu passes, vas-y. Voilà, j'ai dessiné l'histoire, c'est un trait avec une flèche qui part du début, la création, qui va jusqu'à la fin, et à la fin de ce temps dans lequel nous sommes, on va l'appeler la nouvelle création, c'est ce qui nous attend, et puis centré sur la croix de Jésus-Christ. C'est l'histoire telle que la Bible nous la présente. On ne peut pas comprendre ce qu'est l'être humain si on ne lit pas Genèse, chapitre 1 et chapitre 2, parce que c'est ce texte qui nous révèle que l'humanité est créée à l'image de Dieu. On ne peut pas comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui si on ne lit pas Genèse 3 et qu'on ne comprend pas le récit de la chute, la perte de communion entre l'humanité et Dieu. Et on n'a pas une vraie compréhension des conséquences, de toutes ces conséquences, si on ne lit pas les chapitres qui suivent dans Genèse, chapitre 4 jusqu'à chapitre 11, où on voit toutes les conséquences de ce mal qui remplissent l'humanité, où le meurtre apparaît. Dans les relations, tout change, tout est bouleversé. Et on discerne le plan de salut de Dieu. Cette histoire qui va commencer pour sauver l'humanité à partir du chapitre 11 de Genèse, avec l'appel d'un homme à qui Dieu fait une promesse, et cette promesse, c'est la bénédiction pour toutes les nations, pour tous les peuples, par sa descendance. Vous voyez, cet homme, c'est Abraham, oui. Et l'histoire se poursuit. Il y a la descendance de cet homme. Ça va être un fils, puis ça va devenir une tribu, ça va devenir un peuple qui va être captif, un peuple libéré par Dieu, on en a parlé ce matin, avec qui Dieu fait une alliance, un peuple établi dans son pays, avec son roi, et puis les descendants de ces rois qui vont se rebeller contre Dieu, contre l'alliance, et le peuple va en subir les conséquences, et la conséquence, ça va être l'exil. Il va être captif, pris par des puissances étrangères. Et puis ça va être un peuple restauré, mais encore sous l'autorité captive des autres nations, un peuple qui va être là à la fin de l'Ancien Testament, en attente de la venue du règne de Dieu par son Messie. Et on en est là quand s'ouvre le Nouveau Testament, à la venue de Jésus. Et à chaque étape de cette révélation, progressivement Dieu se révèle un peu plus. Toujours plus, jusqu'à ce que Jésus, le Messie, paraisse. Alors lui donne toute la révélation du salut de Dieu pour les hommes, pour l'humanité et pour nous aujourd'hui. Il va annoncer le règne de Dieu qui commence avec lui. Lui va accomplir toute la loi, on en a parlé ce matin, cette alliance, et il va établir, fonder une nouvelle alliance qui va créer un nouveau peuple en lui, le peuple de Dieu, la nouvelle alliance, l'Église. Il va accomplir la promesse faite à Abraham. Il est le fils attendu. Il va accomplir par sa mort la rédemption du péché d'Adam pour créer cette nouvelle humanité, préparée pour une nouvelle création. Voyez l'histoire du salut. Et le Nouveau Testament nous enseigne que toute l'histoire du salut se concentre en Jésus. Tout s'accomplit en lui. En lui, il nous ouvre l'espérance d'un règne qui vient, d'un salut qui vient, que Dieu va établir. Ça, c'est le Tota Scriptura. C'est une lecture chrétienne de la Bible. Parce que centrée en Christ. Parce que vous savez qu'on peut lire la Bible autrement que de manière chrétienne. Tout texte particulier doit être compris dans ce cadre-là par rapport à la révélation de Jésus-Christ et jugé par rapport à l'enseignement et la révélation de Jésus. Si tu veux appuyer, voilà, nous voilà. Je nous avais oublié. Le petit bonhomme avec ses jumelles, vous ne voyez peut-être pas bien au fond, le petit bonhomme avec ses jumelles, c'est nous. Nous, on est là, entre la croix et la nouvelle création, et on essaye de comprendre cette histoire du salut. Alors, centré sur la croix, la première flèche s'arrête à la croix, on regarde à Jésus, et parce qu'on regarde à Jésus, on comprend ce que Dieu fait. On peut embrasser de la création à la nouvelle création, le plan de Dieu pour notre salut. Et ce que Dieu restaure. Et notre place dans ce plan, à chacun. Parce que ce que Dieu restaure, c'est chacune de nos vies. On va lire un texte de manière plus précise, toujours dans deux Pierre. Et on va voir l'implication de ces deux principes qu'on vient d'évoquer pour nous. Écriture seule, fondement de la foi, référence, autorité pour nos vies, et toute l'écriture qui nous permet de bien comprendre et recevoir la vérité de l'Évangile. Vas-y, si tu passes. Une vie sainte, c'est cette perspective qui nous est donnée par la parole. Et on va lire dans... Alors, c'est 2 Pierre, en fait. C'est 2 Pierre 3, en fait. Je te le dis pour que tu corriges. 2 Pierre 3. Puisque tout cela est appelé à se dissoudre, ainsi, comment ne devriez-vous pas vivre ? Vous voyez, l'influence de la vérité qui nous est révélée dans l'Écriture sur notre vie, vie pratique, c'est avec une conduite sainte et avec piété qu'il vous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu. Et il parle de l'avènement de Dieu où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments brasés se fondront. Tout va être transformé, tout va être bouleversé. Verset 13. Or, nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une nouvelle terre où la justice habite. Aussi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui, sans tâche et sans défaut, dans la paix. Verset 15, voilà. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il a fait dans toutes ses lettres où il parle de ces sujets. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les gens ignorants et mal affermis tordent le sens, comme ils le font aussi des autres Écritures pour leur propre perdition. Puisque vous êtes prévenus, bien-aimés, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Croissez plutôt dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. À lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Ça, c'est la fin, en fait, de l'épître, deuxième épître de Pierre. Et dans cette lettre, dans cette épître, Pierre s'adresse à des églises qui sont confrontées à des fausses doctrines, à des faux enseignements et à des faux docteurs. Et il en a parlé dans le chapitre 2, et il a insisté sur leur cupidité. Ce qui les motivait, c'est de profiter de l'Église. Et après avoir exhorté ces chrétiens dans le chapitre 1, il rappelle la révélation particulière faite aux apôtres. Dans le chapitre 3, il parle de la venue du Seigneur. Il utilise les mêmes mots que Jésus. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. La nouvelle création va paraître. Et ce sera un jugement, un tri en fait. Un feu qui brûle, ce qui passe et qui ne tiendra pas pour l'éternité. Un feu purificateur, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et en terminant sa lettre, cette conclusion qu'on a lue ensemble, il exhorte ses chrétiens à rester sur la révélation. À cause de l'imminence de ce jour où le Seigneur va établir son règne. Il leur dit, regardez ce qui vous attend, et parce que vous regardez à ces choses, votre vie aujourd'hui va changer. Vous voyez, Pierre donne un schéma aux chrétiens, regardez. Vas-y. Ah, on a... Vas-y. Voilà. C'est ce schéma-là. C'est regarder à la nouvelle création. Regardez à ce que Dieu vient établir son règne, un règne de justice. Ça, c'est le tota scriptura. On regarde toute la révélation. Connaître Jésus, c'est savoir cette vérité, qui il est. Cette doctrine dans laquelle Jésus nous est révélé comme notre sauveur personnel. C'est le sola scriptura, l'écriture seule, en Jésus. Et ça nous conduit à lui rendre gloire maintenant. À lui donner notre vie, à lui appartenir. Et pour l'éternité. Il y a un lien, nous dit l'apôtre, entre l'éternité et maintenant. Si tu appuies, je crois qu'il y a une petite flèche qui va apparaître. Non, ah, raté. La gloire de Jésus-Christ qui sera de manière évidente, visible, quand il va paraître. L'avènement du Seigneur, c'est la révélation du Seigneur, visible. Donc tout le monde verra la gloire de Jésus-Christ. Tout genou fléchira, c'est ce que la Bible nous dit. Toute langue sera obligée de confesser, toute bouche sera obligée de dire « Oui, Jésus est Seigneur ». À son avènement, lorsque la nouvelle création sera établie. Mais cette gloire visible demain est déjà visible aujourd'hui. Comment ? Le Nouveau Testament nous le dit, dans la vie du croyant. Dans notre vie. Et c'est ce que l'apôtre Pierre, dans cette lettre, s'efforce de rappeler. Il parle de maintenant. Il y a une fin à toutes ces choses. Au verset 11, puisque tout cela est appelé à se dissoudre, comment ne devriez-vous pas vivre ? Il encourage ces chrétiens en leur disant, mais cette réalité du jour du Seigneur, où Dieu va établir son règne, ça a un impact dans votre vie maintenant. Regardez à cette réalité. Comment ne devriez-vous pas vivre ? Et il insiste, c'est avec une conduite sainte et avec piété qu'il vous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront. C'est le moment où tout bascule dans l'éternité, où le règne du Seigneur, la promesse du salut, les nouveaux cieux d'une nouvelle terre vont paraître. Et dans tout le passage que l'on vient de lire, il y a une l'attente. Trois fois, il est question d'attente. Mais ce n'est pas une attente passive. C'est une attente où notre vie est donnée à Dieu par la foi en Jésus. Et notre vie, parce qu'on lui donne, il la transforme. Toujours plus. Dieu le fait au plus profond de mes pensées, de mes émotions, de mon caractère, de mon être intérieur. Il me transforme par son Saint-Esprit. On ne se contente pas d'attendre un salut demain, en d'autres termes, mais on le hâte. Hâter l'avènement du jour du Seigneur. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut hâter ? C'est-à-dire faire venir plus tôt quelque chose qui, de toute façon, ça dépend de Dieu tout seul. Hein. C'est lui qui décide. Hein. Qu'est-ce qui peut dire à Dieu, Seigneur, tu tardes un petit peu là. Non, c'est comme le train, hein. De toute façon, on le prend quand il arrive. Et le Seigneur, c'est lui seul qui décide, il est souverain. Ce que l'apôtre veut dire, c'est comme si on y participait. C'est comme si notre vie à chacun et notre vie dans l'Église, et l'Église démontre, manifeste ce règne concret dans nos vies. Comme s'il allait arriver, comme s'il était imminent. Je le dis autrement, c'est que le chrétien vit comme si le Seigneur revenait ce soir. Là, c'est clair ? On ne peut rien au jour du Seigneur, mais on peut faire quelque chose en lui abandonnant notre vie entièrement pour qu'il change nos vies, qu'il annonce son règne. C'est cette idée de regarder à la fin, c'est un peu l'idée d'anticipation. Et quand on anticipe un événement, qu'on anticipe quelque chose, on le prépare. On fait des préparations au mariage avec Victoria. Et je peux vous dire qu'on les fait plusieurs mois à l'avance. Et je sais que les futurs mariés, des mois à l'avance, ils préparent le jour du mariage. Ils y pensent, ils réfléchissent, ils travaillent à la préparation. C'est vrai aussi pour les futurs parents. Seigneur a bien fait les choses, vous avez 9 mois pour vous préparer. Formidable. Ils anticipent la naissance, ils se préparent, ils préparent tout, la maison. Et le chrétien, le croyant, qui a compris ce message, il vit en anticipation, dans l'attente d'un salut qui vient, qui arrive, qui pourrait être là ce soir. Et ça nous pousse à agir conformément à la fin, au règne à venir, un règne de justice, de paix, de vérité, de communion, d'amour. On peut aimer aujourd'hui, on peut pardonner aujourd'hui, on peut consoler, faire face à la souffrance des autres, à la mienne, à la maladie, à la mort, à l'épreuve, à la tentation, à la persécution, aujourd'hui, dans l'attente de ce jour, et parce que le Saint-Esprit est là, parce que Jésus a dit « Je suis avec vous ». Jusqu'à la fin. On attend ce jour où il essuiera toute larme de nos yeux, ni cri ni douleur, où le péché sera définitivement vaincu, la mort sera vaincue. On voit que dans ce texte et dans bien d'autres, que pour les apôtres, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement une expérience, c'est une expérience, ça commence par une expérience, mais c'est quelque chose de pratique, de concret. De vivant, où on vit quelque chose, on agit concrètement. Et que ma vie, elle a une importance parce qu'elle prend place dans ce plan général de salut. Je ne sais plus si j'ai remis le petit bonhomme, parce que j'aime beaucoup ce petit bonhomme. Mais on est là, on est entre la croix et la venue du Seigneur. Et chacun de nous, nous sommes là aujourd'hui. Et nous participons à cette histoire de la révélation. Et c'est pourquoi nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres, l'enseignement de toute l'Écriture, pour croître, pour grandir dans toute la vérité et mettre notre foi pour vivre ces choses merveilleuses que Dieu a réservées pour chacun de nous. On prie ensemble ? Seigneur, merci pour cette merveilleuse parole. Merci pour cet évangile, cette bonne nouvelle. Merci. Parce que Seigneur, tu n'es pas avare de tes bénédictions, nous le croyons, nous en avons cette ferme conviction et nous l'avons vu tant de fois. Nous voyons, Seigneur, comment tu prends soin de tes enfants, de celui qui place sa confiance en toi. Oh, tu es ce Dieu bon que nous révèle l'Écriture. Tu es ce Dieu vivant qui agit aujourd'hui. Et Seigneur, tu veux te révéler à nos vies. Tu veux te révéler à chacun de nous, au plus profond de nos cœurs. Mais tu veux aussi te révéler à travers nous. À travers ces vies que tu transformes, ces vies que tu changes, ces vies qui sont des miracles de Dieu. Tu veux te révéler à travers chacun de nous, afin que ces vies soient un témoignage vivant de la gloire d'un Dieu vivant. Merci parce que tu viens bientôt, Seigneur. Tu viens établir ce règne merveilleux que nous attendons en Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen.